Scope Arena présente Vue du banc avec Florent Tonuti, Raphaël Cosmidis et Christophe Cuchy.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 20e épisode de la saison 9 de Vue du banc. On va se concentrer aujourd'hui sur les Coupes d'Europe, à la fois la Ligue Europa Conférence et puis aussi la Ligue des Champions. Je suis dans cette optique accompagné de mes deux tauliers habituels, d'abord de Christophe Cuchy. Salut Christophe.
Salut Raphaël.
Et de Florent Tonuti. Salut Flo.
Salut Raphaël, salut Christophe.
Messieurs, nous sommes là pour commencer par débriefer les deux matchs des clubs français, donc la victoire de l'Olympique de Marseille contre le PAOK Salonique 2-1 et le match nul de Lyon à West Ham en partout. Et c'est d'ailleurs par ce match qu'on va commencer parce que c'était le plus disputé et celui qui nous a plus intéressé en deuxième période notamment. Je vais commencer par les compositions du côté de West Ham, Areola dans les buts, une défense à 4 avec Fredericks, Dawson, Zuma, Cresswell, au milieu de terrain, Souček, l'ami de Christophe Cuchely avec Declan Rice, Bowen à droite, Benrahma à gauche et Fornals en 10 derrière Michael Antonio. Du côté de Lyon, Anthony Lopez dans les buts, une défense à 4 avec Malogusto, Boateng, Moukeba, Emerson, un milieu de terrain avec Fèvre à droite, Aouar à gauche, Ndombele et Mendes dans l'axe, et Paqueta en soutien de Moussa Dembélé. Alors il y avait l'absence de Kakré qui est notable, Florent, puisque c'est donc le joueur qui va être blessé pour les semaines à venir pour l'OL. C'était donc Mendes, Ndombele au cœur du jeu, c'était le retour de Boateng aussi en tant que titulaire dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais qui a commencé par... J'irai pas jusqu'à dire contrôler le match, je dirais à commencer par avoir le ballon, parce que c'est quand même un match que, où Lyon a monopolisé le cuir. On a vu un West Ham qui a tenté de presser par séquence, mais qui finalement a fini par laisser les Lyonnais tenter de construire. Et on a eu cette physionomie jusqu'au carton rouge en fait d'Aaron Cresswell juste avant la pause. Un Lyon qui essaye d'attaquer un bloc assez regroupé de West Ham, et un West Ham qui pique en contre-attaque, notamment avec du jeu long sur Antonio et Fornals, Bowen, Benrahma qui sont là sur les rebonds et sur les courses. Ça aurait pu être ça jusqu'à la fin du match. Est-ce que le carton rouge n'a pas sauvé de l'OL d'une mauvaise surprise plus grave que son 1 partout qui les déçoit quand même?
C'est possible, parce que c'est vrai que West Ham avait quelques routes et quelques circuits, même un circuit qui fonctionnait, le jeu long sur Antonio, la remise et puis les projections autour, où tu pouvais imaginer qu'en deuxième mi-temps, ça allait peut-être s'accentuer, cet avantage, et qu'ils allaient encore appuyer un peu plus là-dessus. Après, c'est vrai que le fait que l'OL ait le contrôle du ballon, pas forcément du match, mais le contrôle du ballon, on pouvait un petit peu s'y attendre, vu le profil de West Ham en Première Ligue. C'est quand même pas forcément une équipe qui est très protagoniste ou qui a une identité forte avec le ballon. Donc que l'OL, en plus avec les joueurs alignés, le monopolise un peu et le prennent tout simplement, c'était assez logique. Après, c'est vrai que je pense que le carton rouge, je l'aimais bien, d'autant plus que c'est quand même un carton rouge extrêmement bête. On va pas se le cacher que sur cette action-là, Cresswell qui met le bras, s'il ne met pas le bras, il continue sa course, il se met entre Dembélé et le but, et je pense qu'il n'y a absolument pas d'action, parce que le premier contrôle de Dembélé l'amène vers l'extérieur.
Il est vraiment sur un cadeau. Il est un peu impatient, parce que je pense qu'il commence à mettre le bras au moment où Dembélé fait sa touche de balle, qu'il éloigne du but. Et s'il s'en rend compte, Cresswell, je pense qu'il n'a pas besoin de faire cette faute-là, en effet.
C'est ça. Et moi, non, sur la première mi-temps, parce que sur la deuxième, j'étais un petit peu plus focalisé sur le match de Marseille, vu que le PAOK Salonique revenait, puisqu'ils ont réduit la marque en début de deuxième mi-temps. Mais sur la première mi-temps, ce qui m'a exaspéré avec Lyon, c'est ce côté spectateur des uns. Lorsque les autres ont le ballon, ou lorsque l'autre a le ballon, vu qu'il n'y en a qu'un seul. C'est-à-dire que j'ai souvenir deux actions particulièrement. Une où Gusto récupère près de sa surface, remonte quasiment 60 mètres avec le ballon, et en fait dépasse absolument tout le monde. Côté lyonnais, personne ne le suit, et il se retrouve seul contre 3 à 30 mètres du but adverse avec personne en soutien, ou capable de faire un appel en profondeur.
Tout le monde est arrêté. Il y avait un côté Mbappé contre la Croatie en 2018. Si tu te souviens, Flo, il y avait des contre-attaques où il allait tellement vite que derrière, il devait temporiser. Mais là, c'était pas pareil. Oui, non, mais c'est ça, j'allais y venir. C'est que là, il allait même pas forcément vite, c'est les autres qui ne venaient pas.
Et la deuxième action, c'est pareil, c'est Dembélé qui fait une percée plein axe. Et en fait, on va dire qu'il va... Il démarre à l'entrée du rond central et il traverse la médiane et il monte sur 20-30 mètres avec le ballon. Et en fait, tu le vois, il passe devant Aouar, il dépasse Aouar et en fait, au bout du compte, Ndombele se retrouve avec zéro solution à part peut-être Moussa Dembélé, un cran plus haut, qui fait un appel. Mais c'est là où tu te dis, mais ces joueurs ne jouent pas ensemble, en fait. Il y en a un qui va prendre l'initiative, ils ont de la qualité technique quasiment partout, et du coup, il va pouvoir faire des différences, mais en fait, une fois que le gars a fait la différence et a créé un décalage, ses partenaires le regardent faire et ne sont pas dans la passe après, on va lui offrir une solution pour réussir à poursuivre ce décalage et à, bah, une fois que t'as éliminé le milieu de terrain, à éliminer la ligne défensive par une passe, quoi. Et ça, sur la première mi-temps, ça m'a exaspéré avec ces deux actions en symbole.
Et je vais parler avec Christophe parce qu'il y a quand même deux parties énervantes, je trouve, dans la performance de l'OL. Donc la première période, c'est celle que Flo a évoquée, Christophe, c'est cette absence de profondeur. Alors c'est à la fois un côté spectateur des joueurs, mais ça dépend aussi du profil des offensifs que tu alignes. Et quand tu as Paqueta, Favre et Aouar autour de Dembélé, bah finalement la seule recherche de profondeur, elle vient de Dembélé, puisqu'elle n'est pas venue des latéraux, en tout cas pas en première période, et la plus grosse occasion est donc le carton rouge contre Aaron Cresswell, vient d'ailleurs d'une passe aux profondeurs d'Aouar pour Dembélé sur une transition. Mais c'est un peu le souci qu'on évoquait à l'OL depuis le début de la saison, c'est que le seul joueur qui va apporter la profondeur en dehors de Dembélé, c'est Karl Toko Ekambi. Fèvre n'a pas solutionné ce problème parce que c'est un joueur de demi-espace qui préfère recevoir dans les pieds, et Tété, quelque part, ne réglera pas ce problème non plus. Il va apporter des choses en 1-1, mais il va pas changer la vie de l'OL dans la recherche de la profondeur. Donc c'est un vrai problème qu'on a vu sur la première période, Christophe, mais il n'est pas forcément étonnant quand tu vois la composition du 11 et les dernières semaines de l'OL, où il n'y a pas forcément de joueurs qui compensent cette tendance à recevoir dans les pieds, avec des courses venant des milieux, avec des latéraux qui viennent très haut. On a encore vu un match, par exemple, d'Emerson très timide offensivement.
Mais la question que je me posais là devant ce match, c'était justement, en fait, on a tous toujours ce prisme là c'est un joueur de demi-espace qui demande la balle dans les pieds, lui c'est plutôt un joueur de profondeur, et je me demandais, mais c'est vraiment une question que je me pose, hein, pour aller un peu changer un petit peu des stéréotypes, etc., on connaît les profils, parce que Lyon joue vraiment 100% comme attendu, finalement, vu les profils, pas forcément bien, mais bon, clairement, tous les joueurs sont dans le registre qu'on leur connaît, c'est à quel point un joueur qui a l'habitude de demander dans les pieds peut quand même faire des appels, même si c'est pas son jeu, en fait, tu vois, c'est-à-dire... Après, il y a une question physique aussi, c'est-à-dire que nous, quand on fait un five à notre niveau, même si on préfère avoir la balle dans les pieds, tu nous dis de courir, on va faire les appels, on va un peu tirer la défense, on va les faire à très haut niveau, faire les appels. Si t'as pas la vitesse de course, tu vas embarquer personne, enfin voilà. Et c'est vrai que je me demande à quel point certains joueurs lyonnais pourraient un petit peu sortir de leur registre préférentiel et faire ces courses pour au moins essayer de faire une fausse piste d'étirer la défense, parce que là, ça demande tout le temps dans les pieds. Enfin, vraiment, c'est très téléguidé, en fait. C'est un peu frustrant.
Le plus apte à le faire, et on l'avait vu notamment quand il jouait plus haut, c'est Paqueta, je trouve, qui a quand même ce volume de course et cette puissance, hein, alors que Fèvre et Aouar l'ont pas du tout, en fait. C'est des joueurs qui peuvent éliminer quand il y a un joueur qui vient les presser, qui savent combiner, mais qui n'ont pas du tout la vélocité pour s'engager dans la profondeur. Et là, on a vu un Paqueta, on va revenir un petit peu en deuxième période, évoluer très bas, quasiment à hauteur de ses milieux de terrain. C'est un regret, je trouve, mais cette absence de profondeur, elle a vraiment mis dans l'embarras à l'OL. Et il y a eu, par contre, de belles situations pour West Ham. Des situations, pas forcément des occasions, Christophe, avec un schéma clair, c'était du jeu direct sur Michael Antonio, sur Castello Luqueba. J'ai vu qu'Ismaël Afoud avait fait référence à nous dans un de ses tweets en disant qu'on avait évoqué les limites aériennes de Luqueba, et on les a vues pendant toute la première période. Et derrière, ça a donné le second ballon venait naturellement à Fornals, qui a très très bien orienté d'ailleurs ces ballons-là, et des contre-attaques, des 1 contre 1 de Benrahma, des courses de Bowen. C'était très clair du côté de West Ham, mais je pense que ça a plus embêté l'OL qu'on ne le croit, si on regarde que les expected goals où West Ham a très peu. Moi, je ne les ai pas sentis en maîtrise du tout sur la première période, en fait.
Ouais, non, je suis assez d'accord. Déjà, pour revenir à ce que tu disais juste avant sur Paqueta, on peut toujours dire, oui, mais quand il fait les appels, en fait, il est à la réception des passes et pas forcément lanceur. Vu la gueule des passes qu'il fait en ce moment, ou de ses choix, de ses tirs, de manière générale, de ce qu'il propose quand il a le ballon, j'ai envie de dire qu'on perdrait pas grand chose à avoir un autre passeur que lui.
On le voit sur sa dernière passe du match, qui d'ailleurs met fin à la rencontre.
Oui, non, mais c'est. Au-delà des choix, il y a un problème de dosage. C'est-à-dire, il y a à la fois, bah, tu fais pas toujours le bon choix, notamment un peu avant le but où il tente une frappe totalement surréaliste. Mais je veux dire, même quand il y a des fois, c'est le choix qui s'impose potentiellement de faire une passe en profondeur, les passes sont totalement ratées, en fait. Donc ça, c'est première chose embêtante. Mais c'est vrai, sur ce que tu disais, c'est assez vrai que Lyon avait la balle, mais avait la balle pour pas faire grand chose, quoi. C'était, bon, on va y venir très rapidement après, mais le match de City où City a la balle, elle la récupère tout de suite, et au final, même si tu crées pas grand chose, au moins ça t'offre une protection. Là, il y avait, pour moi, pas beaucoup de protection qui était offerte par le fait d'avoir la possession. Et honnêtement, le jeu de West Ham était assez primaire, assez primitif parfois, sauf que c'était des balles en profondeur, mais qui étaient bien données à destination de joueurs qui faisaient les appels, mais qui faisaient les bons appels, et les mièges de Benrahma, qui arrivaient à bien s'emmener la balle. Donc c'est sûr que, ou de Antonio, qui gagnait ses duels aériens, notamment Fassadou Keba, qui sauve la balle sur un duel initialement perdu. Donc c'est vrai que, mine de rien, tu vois le plan de jeu de West Ham, tu te dis, ils n'avaient pas forcément... Ils subissaient pas forcément le scénario de la rencontre parce que la configuration jouait quand même plutôt sur leur force à eux.
Bah, disons qu'à 11 contre 11, je vois plus un 1-0 pour West Ham qu'un 1-0 pour l'OL quand tu vois la première période, dans la capacité à se créer des occasions. Je voyais plus West Ham finir par faire la différence parce que des grands espaces, parce que des joueurs de 1 contre 1 qui pouvaient faire la différence, alors que l'OL me semblait incapable de hausser le rythme et de changer cette occupation de l'espace assez radicalement pour se créer des occasions. Et ça, je trouve que c'est le thème de la deuxième période, Flo. En première, c'était la recherche de profondeur, et son absence de recherche de profondeur, de menace dans la profondeur.
Oui. En deuxième, il n'y en avait plus.
Et en deuxième, il n'y avait plus de profondeur. Du coup, dans le foot, il y a la profondeur et il y a la largeur. Et en deuxième, il y aurait dû avoir beaucoup plus de largeur dans le jeu de l'OL, notamment avec les changements, parce que quand même, Peter Bosch a fait des changements qui auraient dû apporter des solutions sur la largeur. Ça a été le cas avec Tété, qui a apporté un contre un d'ailleurs sur un de ses premiers ballons, et ça fait but pour Ndombele, et de Karl Toko Ekambi, qui aurait dû apporter à la fois de la largeur et des courses, en partant justement de l'extérieur vers l'intérieur. Sauf que Karl Toko Ekambi, je trouve, a passé la majeure partie de sa demi-heure sur le terrain à coller Dembélé dans l'axe. Donc sur des situations, en plus, il n'est pas forcément très bon, et contre cette défense centrale et ces milieux de terrain qui sont très aériens, parce qu'on dit Rice et Souček. Je pense que c'est le milieu, le double pivot en Europe, le plus grand d'Europe. Les deux font un 95 quasiment. Souček, il fait quoi? Il fait
92.
Ouais, 92. Et Rice, il fait un 85, mais j'ai l'impression qu'il en fait au moins 10 de plus. Quand tu le vois jouer, le mec a l'air immense. Donc,
Après, c'est sûr que si tu rajoutes des centimètres aux gens, ça va forcément être le milieu le plus grand d'Europe.
C'est comme ça que j'ai fait sur ma carte d'identité, d'ailleurs. Tu sais, Christophe, la taille officielle n'est pas forcément la taille naturelle et la taille réelle. Donc, je te le dis, je te préviens, si tu vois à un moment 1m74 sur ma carte d'identité, il y a 2 ou 3 centimètres de plus. Mais pour revenir au match, Flo, l'utilisation de la largeur, c'est un souci de l'OL depuis le début de saison, largeur et profondeur. Et là, on a vu un peu les deux problèmes. Là en première, là en deuxième, mais j'ai trouvé ça extrêmement énervant. C'est très très frustrant en fait. C'est pas des matchs où tu te dis ah s'ils font un peu ça, c'est des matchs où tu te dis mais décale-toi. Emerson, on l'a pas vu monter une seule fois. Gusto, il partait très très loin et il y avait une seule menace en contre. Et parfois, le même West Ham jouait en 4-5. T'avais pas besoin de garder tes latéraux assez bas. À la limite, laisse Boateng, laisse Ndombele, laisse Mendes, j'en sais rien, mais mets de la largeur dans le jeu. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait.
Je sais pas pourquoi, hein. De toute façon. Après, c'est vrai que, de toute façon, le côté gauche, Toko, c'est souvent... Après, s'il était si près de Dembélé, c'était peut-être demandé, hein,
pour être dans la surface.
Parce que parfois, Toko va rester côté, parfois il va jouer plus axe, donc c'était peut-être demandé, ça, pour le coup. Mais c'est vrai que dans l'apport des latéraux notamment, c'est insuffisant, même si Gusto a essayé de monter, mais comme tu le dis, il partait d'assez bas, donc les mecs avaient le temps de le voir venir, le temps de sortir cadré, etc. Et puis globalement, de toute façon, ça manquait de percussion. Tété, il est dangereux parce qu'il va percuter, il tente un dribble, et c'est comme ça qu'il va faire la différence. Les autres n'allaient pas fixer, les autres n'allaient pas forcément provoquer, et face à une charnière... Tu l'as dit toi-même, avec Zuma, Dawson, plus Rice et Souček, si t'envoies des centres de loin, globalement, t'as intérêt à être très précis dans ton centre, ou très très fort à la réception, pour pouvoir prendre le ballon, et à ce niveau-là, les Lyonnais n'y étaient pas, mais ce qui leur a manqué vraiment, c'est des sources de provocation, des joueurs capables de dribbler, des joueurs capables d'aller percuter, d'aller provoquer des fautes, peut-être provoquer un péno ou des choses comme ça, parce que bon, c'est pas non plus les meilleurs défenseurs du monde en face quand tu vas les provoquer un contre un. Et le seul joueur qui a fait ça finalement, c'est Tété quand il entre en jeu.
Juste petit mot sur Tété avant que tu reprennes, Raphaël, pour rebondir sur ce que disait Florent tout à l'heure, à savoir que finalement t'as l'impression que ces joueurs-là se découvraient un peu, quoi, que chacun faisait sa sauce dans son coin et qu'il n'y avait pas vraiment une alchimie collective. mine de rien, je pense que ça facilite l'intégration de TT, du coup, parce que le fait qu'il n'y ait pas de circuit préférentiel, de relations, où des joueurs vont toujours combiner, etc., fait que finalement, bah, puisque tu as l'impression que tout le monde se découvre, le fait qu'il y ait un joueur qui vraiment découvre les autres, ça fait pas de différence, puis en gros, c'est un peu chacun son tour va jouer, quoi. C'est un peu, je sais pas, un match de streetball où on change les joueurs, et puis ça fait un 5 contre 5. Voilà, donc je pense que, mine de rien, ça facilite un peu TT, et que du coup, je trouve qu'en seconde période, il y a un moment, vers la 80-85e, ils le cherchent beaucoup, beaucoup. Et je pense que si les Lyonnais avaient plus l'habitude de trouver, je sais pas, Paqueta dans une position préférentielle, etc., depuis quelques semaines, bah, du coup, ils auraient pris cette habitude-là, ils l'auraient gardée. Là, du coup, le fait de ne pas avoir d'habitude font que finalement, ils ont dit, tiens, bah, Tété en chaleur, il vient de rentrer, il a l'air encore intéressant, bah, on lui donne la balle. Donc, au moins pour ça, ça facilite, je pense, l'intégration d'éléments extérieurs qui n'ont pas les code de jeu, si on peut parler comme ça, de l'OL depuis début de saison.
Et moi, il n'y a pas une seule fois du match où il y avait un joueur à la ligne, sur la ligne de touche opposée pour renverser. Vous regardez l'ensemble du match, Emerson, quand le ballon est à droite, il est tout le temps à l'intérieur. Je pense que c'est pour prévenir les contre-attaques, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne mets pas Emerson ou Carl Tocque en ligne de touche, et à l'opposé Gusto ou Tété, et tu fais descendre des milieux pour prévenir les contres. Puisque de toute façon, ce n'est pas à l'intérieur que tu allais trouver la solution. Et ils se sont entêtés à frapper, à combiner dans les tout petits espaces, avec en plus des attaquants de haut jeu qui sont pas capables de combiner techniquement assez justement pour mettre des joueurs dans des positions de frappe correctes. Et on a vu des tentatives de frappe, mais t'en as parlé tout à l'heure, Christophe, celle de Paqueta, qui est juste avant le contre de West Ham qui mène au but. Il y a un joueur qui est littéralement face à lui, qui le cadre et il frappe. Et ça, c'est quand même des choix très très peu compréhensibles et qui, à un certain niveau, normalement, n'existent plus en fait. Arrive à un niveau Ligue des Champions, Coupe d'Europe ou même Ligue 1, c'est des choix qui doivent pas exister.
Surtout quand t'as souvent la balle en fait. Tu vois, c'est pas c'est la première fois, genre t'as une équipe qui joue en Coupe de France.
Ouais, c'est pas ça. Ouais.
Ah, je passe enfin le milieu de terrain. Bon, faut que je tente ma chance parce que je sais pas quand je vais y revenir. Là, tu étais tout le temps dans le camp adverse. Du coup, t'avais le loisir de varier et de pas faire un tir qui n'a. Mais bon, Paqueta, je pense qu'on a tous les deux pété un cap sur son match. C'est pas la première fois depuis 4-5 mois qu'il est un peu à côté de ses pompes. C'est pas l'histoire du match, pour reprendre un pensif de vue du banc, mais c'est quand même important parce que c'est peut-être intrinsèquement ton meilleur joueur. Donc c'est clair que quand lui n'est pas au niveau, tu n'iras pas au bout de la compétition s'il continue à jouer comme je pense.
Il a eu une période de mieux à un moment là, quand il combinait, il jouait un peu en une touche parce qu'il sentait qu'il faisait n'importe quoi, je pense. Mais pour moi, c'est pas un 10 en fait. Paqueta, il est dans cette zone-là, il touche des ballons dans ces zones-là, mais dans sa conception du jeu, je trouve pas que ce soit un 10, ou en tout cas pas un bon 10.
C'est un 9,5?
Ouais, ou à la limite un relieur très avancé. Là, il a joué très bas en plus, il est venu tout le temps à hauteur de Mendes et de Mbappé pour toucher des ballons. Je sais pas ce qu'en pense Flo, mais pour moi, il a pas les réflexes d'un 10 en fait dans sa manière de jouer.
Mais il porte beaucoup de ballons.
Ouais.
Il porte énormément.
Dans ses tentatives, il aime pas manger à tout le monde, tu vois.
Mais quand tu. Ah, après, ça, c'est un petit peu le cas de tous les milieux offensifs de l'Olympique Lyonnais. Globalement, mais oui, lui plus que l'autre, parce que lui par contre quand il est sous pression il est capable de la garder, mais oui, il la garde sans doute trop maintenant. À une époque c'était très important de l'avoir pour Lyon, là on aimerait qu'il fasse un peu plus vivre les autres. Si tu compares par exemple sur ce match là le match de Fornals en face, c'est le jour et la nuit quoi à ce niveau là
c'était pas les mêmes ballons à jouer pour au crédit de Paqueta, c'était des ballons très durs à jouer. Fornals en une touche il pouvait renverser,
pas les mêmes ballons, mais quand il pouvait la mettre en une, ça partait rarement en une, quoi, quand c'était son cas. Donc voilà. De toute façon, au-delà de Fornals, pour rebondir un peu sur les joueurs de West Ham, c'est rigolo d'imaginer que Peter Bosch préférait peut-être le quatuor d'en face pour pouvoir jouer comme il en a l'habitude et comme il aimait le faire, notamment à Leverkusen.
Ça court plus, ouais.
Je pense que Bowen, il adorerait l'avoir. Mais je crois que beaucoup de monde en Angleterre aussi adore Bowen.
Quand Liverpool a recruté Jota, il me semble que c'était lui ou Bowen. Ouais. Parce que les deux en fait avaient des temps de jeu relativement faibles, c'est-à-dire qu'ils jouaient pas tous les matchs. Ils jouaient une partie des matchs où ils étaient suggérés deux fois sur trois, une fois sur deux, mais les chiffres avancés étaient très bons.
C'est en deuxième mi-temps qu'il fait un chantier où il part tout seul avec un joueur sur le dos et il gagne 40 mètres.
Il y a un peu un côté, toute proportion gardée, hein, mais Ribéry dans certaines actions, je trouve, il est ligne de touche, il gagne un contre un, puis un autre un contre un. C'est très très.
Ouais, sur la morphologie aussi.
C'est très très véloce aussi, tu vois.
Les épaules un peu
rentrées. Exactement, ouais, les épaules rentrées. et le mec qui tient tout le temps en équilibre, je trouve. Mais après, bon, c'est pas la même qualité en 1 contre 1. Ribéry avait beaucoup plus de variété. Mais c'est il fait des grosses saisons, Bowen. Il a quand même fait des saisons en Championship où il avait claqué 20-25 buts.
Mais il est déjà une dizaine de buts, je crois, cette saison.
Ouais, il avait démarré très fort. C'est un peu...
Il a 9 en championnat.
9 et 8 passes des d'ailleurs.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais ouais, je suis pas sûr que ce soit un très grand joueur. Par contre, c'est un joueur.
Chiant.
Ouais, un joueur de collectif et qui fait ses stats en plus. Vraiment, le mec.
Une sorte de Chiesa. De Chiesa anglais.
Comme Jota, hein. Jota, c'est un très grand joueur. Vous savez très bien à quel point il m'arrive de m'énerver contre lui. Mais sauf que le gars, il fait 10 et 10 ou 20 et 5 à chaque saison. Il y a des joueurs comme ça. Je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre. Ouais. On parlera de toute façon du match retour quand il sera disputé, parce qu'on reviendra donc la semaine prochaine pour parler de la qualification, on espère, quand même, de l'Olympique Lyonnais, qui me semble un petit peu au-dessus, mais attention, parce qu'à l'extérieur, le jeu de West Ham va être très, très à propos, avec Antonio, avec Fernandes, avec Bowen et Benrahma dans la profondeur, ça peut être embêtant. On passe à l'autre match des Français, c'est le match de l'Olympique de Marseille contre le PAOK Salonique, Flo. Alors, un match qui a très très bien démarré pour l'OM, puisque c'était quand même deux équipes avec des qualités... très différentes, et j'ai envie de dire pas du tout du même niveau quand on fait le bilan joueur par joueur et même collectivement, oui. Mais ça ne fait que 2-1. Et d'ailleurs, on a senti les Marseillais très très frustrés, et limite dégoûtés de leur performance à la fin du match. Personne n'a célébré, personne n'a fêté, ils avaient tous une tête d'enterrement. Et je pense qu'ils savent qu'ils auraient dû, en fait, quasiment plier ce quart de finale, et qu'en fait là, ils sont à la merci d'un mauvais scénario en Grèce.
Ouais, ils sont à la merci d'un mauvais scénario. Ils perdent Gerson avec son rouge. Ils perdent Camara, je crois, qui sera suspendu, il me semble. Que c'est ce que disaient les commentateurs, puisqu'il est rentré, il a pris son carton. Donc, ouais, tu as vraiment une fin de partie en eau de boudin, comme.
En queue de poisson.
Pour reprendre une expression, ou en queue de poisson, bien sûr. Parce que, ouais, je vais donner les stats, par exemple, pour informer Christophe. C'est 17 tirs à 3. Une grosse occasion pour le PAOK, un but. Je suis pas sûr que ce soit la grosse occasion qui marque, parce que la frappe de El Khadouri n'est pas non plus hyper hyper évidente à mettre. Mais surtout, côté marseillais, il y a deux buts marqués, mais il y a trois grosses occasions et trois grosses occasions manquées. Donc la frustration, elle vient de là, je pense. Mmh. C'est-à-dire que t'as largement eu les occasions dont tu avais besoin pour plier ça. En plus,
surtout que tu mets pas tes grosses occasions.
Voilà, c'est ce que je viens de dire, ouais. Tu mets pas tes grosses
occasions. Tu mets des buts, Payet, tu mets des buts qui sont improbables, c'est ça que je veux dire.
Voilà, c'est ça. T'as Payet qui fait deux exploits avec sa passe et son but, sur le premier et le deuxième. Et finalement, derrière, les meilleures occasions que tu te crées, tu les mets pas au fond. Et, comme tu le dis, tu restes à portée d'une équipe que t'as dominée pendant la majeure partie de la rencontre. Après, en deuxième, bon, c'est un petit peu moins tenu, un petit peu moins maîtrisé, ça part un peu dans tous les sens. Et défensivement, tu concèdes un petit peu plus. Il y a des situations, des sorties de balles côté PAOK où tu dois gérer un petit peu. Mais non, normalement, après ce match aller, t'aurais dû finir à 4-1 ou 5-1, au pire si t'en prends un. Mais même t'aurais dû finir avec un clean sheet et un but supplémentaire, quoi. Le 3-0. Ouais. Au bout d'une demi-heure de match, quand tu regardes le match, tu fais ouais, bon, ça va finir à 3-0. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais plus basculé sur West Ham Lyon derrière, quoi.
Les compositions côté Marseille, Mandanda dans les buts, une défense à 4, Paul Lirola, Saliba, Kalaitachar, Kolasinac, un milieu à 3, Gendouzi, Gay, Gerson, et une attaque avec Wunder à droite, Payet à gauche et Bakambu dans l'axe. Du côté grec, bon, y a beaucoup de joueurs qu'on connaît pas, mais il y a des beaux homonymes. Alors dans les buts, Pascalakis, défense avec Liratsis, Ingason, Crespo. Ce n'est pas Hernan, c'est un autre Crespo que je ne connaissais pas. Virinha, je pense. C'est pas celui qui était à Schalke, quand même, le Virinha. Non,
ben, je pense que
si, c'était lui. C'était un bon joueur, ça, Virinha. À Schalke, à Wolfsburg, pardon.
En tout cas, sa tête lui ressemble, donc c'était, je pense que
d'accord,
c'est celui-là.
D'accord, écoute,
ouais, c'est lui qui était à Wolfsburg.
C'était un bon joueur, Virinha. Bon, c'est peut-être toujours un bon joueur, mais je n'ai pas remarqué sur ce match-là. Au milieu
après, il a 36 ans. Donc,
oui, c'est vrai. Au milieu de terrain, Kurtic chez Tsingaras, derrière Douglas. À gauche, le touffu Bissessoir. Qui a fait des bonnes choses. À droite, Ivkovic, en pointe, Akpom. Et à noter dans les entrants, parce qu'il y a des joueurs qui sont entrés et qui ont quand même apporté des choses au PAOK, El Khadouri qui met son but. Et ouais. Mitrita, je pense que Flo, tu l'as vu aussi, si tu as regardé surtout l'OM en deuxième période. Moi, à chaque fois, je regardais l'OM en deuxième période.
Non, moins à ce moment-là du match.
Et il est entré en cours de jeu et à chaque fois qu'il avait le ballon, il mettait en grande galère les Marseillais. Il a gagné beaucoup de fautes. Il s'en est sorti. Au début, j'ai cru que c'était Vladimir Weiss, qui était un peu le spécialiste comme ça des matchs ou des entrées en jeu de 30 minutes où il était très bon. Et ben non, c'est Mitrita, un Romain, qui a fait une belle entrée. Est-ce qu'il y a des choses à noter sur le PAOK flow dans leur jeu, dans ce qu'ils essaient de faire? J'ai vu que parfois ils essayaient de ressortir un peu court, malgré le pressing de l'OM, qu'ils ont perdu des ballons comme ça d'ailleurs, parce que les centraux n'ont pas de pied. Je suis pas sûr qu'ils vont le refaire au retour. Quoi.
J'ai pas grand chose à dire sur le PAOK, parce que j'étais pas non plus 100%, c'est le problème des doubles écrans, hein, de toute façon. Mais je reste sur ce que je disais, ce 2-1 est, à mon sens, miraculeux pour le PAOK, vu l'écart qu'il y a pu y avoir entre les deux équipes sur certaines périodes du match. Et il faut espérer pour l'OM qu'ils aient pas droit justement à ce que tu disais, c'est-à-dire une mauvaise surprise là-bas.
Ça va être
l'avantage.
Il va y avoir une sale ambiance aussi.
Il va y avoir une sacrée ambiance. Déjà que c'était assez chaud sur ce match aller. Il y a Payet qui s'est replaint à nouveau de projectiles venant de la tribune adverse.
Les stewards avaient un filet amovible pour éviter qu'ils prennent des trucs sur la tronche.
Ça n'a pas suffi. Mais tout ça pour dire que. Avantage pour l'OM, c'est que le but à l'extérieur n'est plus aussi important. Ouais. et que dans une semaine, il suffira d'aller gagner là-bas et de faire le même match, et normalement, ça devrait bien se passer. Et le 1-0 ne suffira pas pour le PAOK.
Pour le coup, ça aide l'OM, mais ça n'aide pas l'OL, la disparition du but à l'extérieur, vu les résultats. Parce qu'un partout à West Ham, ça aurait un peu obligé West Ham à sortir pour aller marquer des buts, ça ne sera pas forcément le cas là. J'espère en fait, si Marseille veut éviter une mauvaise surprise, que Sampaoli fera un peu moins tourner. Alors c'est dommage si Camara, si tu me le dis, est vraiment suspendu, parce que du coup je pense qu'il aurait bien aidé.
Ouais, Camara Gerson,
moi, je pense. Parce que Pape Gueye, dans cette position-là en plus, c'est vraiment pour moi rarement une bonne idée, et ça fonctionne rarement d'ailleurs. Et il fait partie du ballon perdu sur le but du PAOK, où il s'en sort bien au départ, et puis après il tente une passe intérieure difficile pour Payet qui se fait surprendre. On verra, mais Badiang aussi, je pensais qu'il apporterait plus, parce que c'est vrai que Bakongo en première avait du mal à apporter des choses, et il a pas fait une grosse entrée
Il a une occasion où il met une tête, ouais. Où il la prend mal et elle part en cloche au-dessus du but, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas souvenir. Par contre, il y a l'OM, j'ai noté les tirs, mais il y a aussi plusieurs situations où la balle passe devant le but en deuxième mi-temps sur des centres forts et où il y a personne pour la pousser au fond, quoi.
On va quand même dire un petit mot des buts, parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là. Et c'est quand même les
paillettes, quoi.
Alors déjà, commençons par le premier, qui est quand même plutôt sympa. Christophe, on l'a vu tous en même temps quasiment, avec cette passe intérieure de paillettes très claquée, qui demande à Gerson de maîtriser vite le ballon. Et on a vu que Gerson était un incroyable volleyeur depuis le début de saison. C'est pas la première fois qu'il claque une volée comme ça. Première belle chose. Bon, après, surtout, c'est surtout le deuxième but de paillettes, qui t'a rappelé un certain Nantais, Christophe, quand même.
Oui, alors Maréval c'était au sol, mais ça m'a rappelé effectivement la frappe de Rémi Maréval, parce qu'il a marqué un autre but. Mais
c'était contre l'OM d'ailleurs.
C'était contre l'OM de Steve Mandanda, absolument. Ou bon, c'est Mandanda, c'est n'importe qui au but, il se passe exactement la même chose. Et bah après, tu vois, sur le coup, ça me rappelle Maréval, et après, il se passe quoi? Il se passe 10 minutes, et Knauf de Francfort met exactement le même but. 95% près. Donc du coup, la comparaison a posteriori avec un but qui a suivi dans un autre match de Ligue Europa était bien plus pertinente. Mais oui, non, c'est drôle parce que ce sont des combinaisons. Je me souviens qu'on en avait vu une où c'était, je crois, Philippe Léonard qui avait repris le truc, mais sur un match de Monaco qu'on avait fait pour les Saga Copa Arena.
Tu sens le travail de fond qui paye là pour vivre.
Où vraiment, tu as le corner qui est tiré ultra en retrait et tu te dis oui, bon. Genre Robben, par exemple, on a déjà mise, mais en gros, c'était à 20 mètres et la balle était vraiment en train de retomber.
Contre Manchester United, là, c'est ça. Corner de Ribéry, ouais. Et il met une volée à. C'était Van der Sar à l'époque, je crois.
Ouais, c'est possible. Mais en gros, c'est pas que c'est facile, mais tu imagines le but. Là, honnêtement, il n'y a aucune chance de marquer, même à l'entraînement, je pense que tu l'avais jamais.
Surtout qu'il y a un rebond en plus, elle n'arrive pas tendue directement, il y a un rebond d'abord.
Ouais, donc c'est. Après, t'es sûr que personne va sortir sur toi à ce moment-là. Oui. Mais ça marche, mais c'est vrai que tu te dis, peut-être que si ça se trouve, ils l'ont réussi une fois à l'entraînement cette semaine et ils se disent, allez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans toutes les combinaisons, il y en a quand même pas mal qui ont des probabilités un petit peu plus grandes de fonctionner. Mais du coup, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un football d'expected goals, etc., de rationalisation. On a peut-être moins de buts comme ça qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, t'avais des tentatives qui n'avaient aucun sens, et de temps en temps, il y avait un but. Là, maintenant, il y a de moins en moins de tentatives d'action comme ça. Là, du coup, il y en a une, il y a eu but, on va pas se plaindre. C'est aussi le bon côté de cette prise de risque et des frappes de loin qui sont quand même un petit peu moins en vogue qu'il y a quelques années.
Je tiens à vous partager une analyse que j'ai entendue à la télévision après ce match-là. Donc ça parlait du but de Dimitri Payet. Tout le monde disait « Ah, qu'est-ce qu'il est beau, incroyable, machin. » Et donc il y a eu un bémol de Stéphane Powels qui a dit « Ouais, mais il est quand même seul. » Il a dit « Où étaient les joueurs? Où étaient les adversaires ?» Bah dans la surface, en fait. Voilà, je tiens à le citer, tout en espérant qu'il ne vienne pas un jour m'attaquer physiquement. C'est quand même un danger. On continue et on passe à la Ligue des Champions, messieurs, parce qu'on a fait le tour, je pense, aussi de cette rencontre de l'Olympique de Marseille. On parlera également du match retour la semaine prochaine. La Ligue des Champions, où il y a des choses qui se sont passées aussi, et des bonnes surprises ou des mauvaises surprises, selon votre soutien. Donc, victoire de Villarreal contre Bayern 1-0, victoire de City contre l'Atlético 1-0, victoire de Liverpool à Benfica 3-1, et victoire du Real Madrid sur le même score du côté de Stamford Bridge. Quel match t'as le plus marqué, Florent? Je sais que t'as bossé notamment sur le Villarreal-Bayern. Est-ce que c'est par celui-là que tu veux commencer?
Oui, bah oui, parce que c'est le résultat surprenant de ces
le Real, quand première même, série de quart de finale. 3-1 du Real, on s'y attendait pas forcément.
Non, on s'attendait pas au un tel écart au score. Après la physionomie du match, disons qu'elle n'était pas si surprenante que ça. Enfin, que ce soit assez à toi, à moi, quoi, sur cette rencontre-là. Après les deux autres, c'était assez à sens unique, même si j'ai plutôt aimé le match de Benfica qui a fait avec ses armes face à Liverpool.
C'était fun. Limité. D'ailleurs, ils aiment le fun, voilà. Puisqu'ils viennent de nommer pour la saison prochaine Roger Schmidt. Donc oui, on devrait continuer
ça va être très rigolo, en effet, l'année prochaine. Mais oui, par contre, voir Villarreal dominer le Bayern sur la première mi-temps au moins, ça s'est rééquilibré largement en deuxième et le Bayern a un peu plus dominé, eu des situations en deuxième mi-temps. Mais sur la première mi-temps, ce que fait Villarreal, c'est pas loin de la, je vais pas dire la perfection, mais c'est un excellent match, à la fois défensivement pour contrôler, malgré le 4-4-2, réussir à contrôler le Bayern sur toute la largeur, grâce à un travail excellent de couverture mutuelle et de compensation des lignes défensives, avec t'as tes deux lignes de 4 qui couvrent en gros les trois couloirs de jeu axiaux, et puis quand il y a le latéral qui doit sortir pour aller chercher Davis ou Coman, il y a un très bon travail derrière de fermeture de l'intervalle dans son dos, puis de fermeture de l'intervalle qui s'ouvre par le premier déplacement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, Villarreal l'a très bien fait sur le plan défensif, et avec le ballon, ils ont trouvé de très bonnes zones à attaquer pour mettre à mal le pressing du Bayern. Et ça passait notamment par le fait de sortir via des diagonales, c'est-à-dire on avait Rulli qui avait la balle dans les pieds, qui donne à sa gauche à Torres, le Bayern déclenche son pressing avec Coman qui sort sur Torres depuis l'aile droite, et Torres, plutôt que de chercher une solution courte, il envoyait une diagonale à l'opposé pour trouver son latéral droit qui était Foyth, je sais pas comment on dit d'ailleurs, et ce latéral droit se retrouvait intercalé avec de l'espace puisque Gnabry était très haut et Davis était très bas parce que Gérard se jouait en position très excentrée de manière à aller occuper cette zone. Donc Foyth avait de l'espace et puis il pouvait avancer, et en fait le Bayern a eu beaucoup de mal à presser et gratter des ballons hauts sur ce match-là, en tout cas sur la première mi-temps, et ça c'est vraiment le plan de jeu de Villarreal qui l'a permis.
Sur la première mi-temps, ça donne 6 tirs à 5 pour Villarreal. Ce qui montre bien la domination, ce serait peut-être un peu fort, mais en tout cas l'idée de rivaliser au moins.
Et puis sur les 5 tirs du Bayern, c'est des tirs de, il y en a plusieurs de l'extérieur de la surface. Il y a pas de tir dans la surface en fait en première mi-temps pour le Bayern.
Ouais, ça confirme le dessus qu'a pris le Villarreal sur cette première partie du match. Christophe, est-ce que Unai Emery est le meilleur entraîneur pour avoir une équipe comme ça de niveau 4-5e de son championnat et d'aller emmerder des gros? Même si ça a été souvent le cas en Ligue Europa, mais en Ligue des Champions, il a aussi des top matchs, des matchs références, hein, le match aller du PSG contre le Barça, et c'était pas le PSG d'aujourd'hui, c'était un PSG sans Neymar, sans Mbappé, sans Messi, c'était pas le même effectif. Est-ce qu'il nous rappelle un peu sa qualité sur double confrontation? Parce qu'on l'a un peu oublié, lui, Unai Emery, ces dernières années.
Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a vraiment l'exemple du match qui a été bossé tactiquement en fonction de l'adversaire. Et voilà, il y a des équipes qui font globalement toujours la même chose et qui bossent toute l'année pour essayer de perfectionner un plan de jeu. Évidemment, le truc un peu ultime de ça, c'est Bielsa, mais il y a pas mal de formations qui ont gagné des Ligues des Champions ou autres qui faisaient globalement toujours la même chose, en s'adaptant vraiment à la marge. Et même City fait toujours globalement la même chose, ça peut adapter un petit peu les positionnements, mais sur l'idée générale, on est à peu près toujours sur sur le même principe. Là, tu sens vraiment que Villarreal a bossé la façon dont le Bayern allait presser, dont le Bayern s'organisait, et tout ce qui est fait là. Alors, je ne regarde pas non plus Villarreal chaque semaine en championnat, je ne vais pas mentir, il y a d'autres équipes que je priorise, mais à la fois dans la compo,
le Salo... Sachant qu'Emery a toujours été meilleur en Coupe d'Europe qu'en championnat. Déjà, son Séville, c'était pareil. Le PSG avait beaucoup de points, mais s'est fait chipper le titre. Et l'an dernier, donc, c'est l'an dernier que Villarreal gagne la Ligue Europa.
Oui.
Et pour autant, en championnat, oui, ils ne sont pas non plus au-dessus du lot, même s'ils rivalisent avec d'autres équipes sur certains matchs. Mais Unai Emery n'a jamais été un mec qui fait comme du Sarri, amener un Naples à 80 points ou amener un Villarreal ou un Séville à 80 points, par exemple.
Voilà, par contre, je pense que Emery serait, bon, il est bien au-dessus, hein, donc la question ne se pose pas, mais serait l'un des meilleurs analystes vidéo au monde. D'ailleurs, je ne sais pas s'il bosse un peu lui aussi sur les vidéos ou s'il se fie uniquement à ce que lui font ses adjoints niveau rapport, etc. Mais à chaque fois, il cible les faiblesses adverses et il appuie dessus. Et là, bon, je ne vais pas m'amuser à redire ce qu'a dit Flo. Il y a deux choses à mon sens. Bon, il y a évidemment la faiblesse du Bayern qu'il faut prendre en compte, parce que malgré tout, le meilleur des plans de jeu de Villarreal doit normalement à un moment se heurter au niveau intrinsèque de l'adversaire qui est supérieur à peu près à tous les postes, plus sur le vécu, plus sur même l'intensité, hein, finalement. Mais je trouve qu'il y a quand même des performances individuelles qui sont supérieures à ce que les joueurs font la plupart du temps, ce qui est un peu leur niveau moyen. C'est-à-dire que Lo Celso, on sait qu'il peut faire des très grands matchs, maintenant être aussi câblé sur le plan défensif, parce qu'avec Foyt, qui est en plus plutôt un central, vraiment, comme me disait Flo, quand moi j'ai rattrapé le match cet après-midi, ça s'échange les marquages, ça laisse passer personne, Niabri n'existe pas, Davis n'existe pas. Donc là-dessus, il y a quand même une complémentarité de deux joueurs, dont encore une fois, même si Foyt a quand même l'habitude d'être délocalisé, c'est pas le poste de formation. Capoue qui fait pas mal de passes intérieures, alors il en rate quelques-unes en seconde période, mais sur la première période, il fait vraiment avancer le jeu dans un rôle qu'on imagine plus attribué à Parejo. Là aussi, c'est quelque chose qu'il fait pas chaque semaine, sinon il aurait pas... Pour une carrière plus importante, il aurait fait
plus linéaire, de passage
en équipe de France, plus linéaire, parce que là, je crois qu'il y a un moment, quand il va à Villarreal, il est en championship, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il venait d'être relégué avec Watford.
Il devait être avec, ouais, c'est ça, ouais.
Et bon, Moreno, on sait qu'il peut être bon, mais bref, je pense que déjà, il y a quand même ce niveau d'individualité qui sont vraiment au max de ce qu'elles peuvent faire. Et deuxièmement, il y a ce plan où, notamment sur les 6 mètres, alors moi, j'ai pas vu le match, mais c'est Maxime Brigand sous foot qui me disait que pareil, ça avait, mais c'est pas le seul, j'ai vu ça passer à droite à gauche, que face à la Juve, ça avait beaucoup aussi travaillé les 6 mètres, c'est-à-dire que en gros, tu t'en doutes parce qu'il y a des combinaisons que tu n'as pas forcément l'habitude de voir. Et là, tu vois, sans forcément à chaque fois trouver quelle est la raison. Et là, très clairement, d'avoir par exemple Pau Torres ou Raúl Albiol qui joue le 6 mètres court en décalant Rulli pour qu'ensuite Rulli fasse un renversement, tu sais très bien que c'est pas un truc naturel, personne fait ça, donc c'est forcément que ça a été bossé, et Rulli a réussi 99% de ses transversales mi-longues, là où Lopez a tout mis en touche sur la même soirée. Enfin,
petit quiz spontané, Christophe, âge de Geronimo Rulli?
27.
Moi j'aurais dit 26, ouais.
29.
D'accord.
Ah ouais. Okay.
Mais voilà, Rulli, si Rulli est moins bon au pied, ton plan de jeu n'existe pas, parce que là c'était renversement, et en gros soit tu renversais et ensuite tu rejoins à l'intérieur pour Capoue et tu repartais dans l'autre sens, soit tu re-renversais pour fixer à l'opposé. Mais vraiment, le Bayern a passé son temps, surtout la première période, à être baladé. Ah, on va vite côté ballon, tous à droite, ah bah non, le ballon part à gauche, on va tous à gauche, et franchement c'était vraiment hyper impressionnant. Mais si t'as pas la qualité technique pour faire ces renversements, j'ai envie de dire que y a pas de match en fait, parce que le Bayern aurait récupéré tous les ballons. Mais vraiment, la maximisation des talents et le plan de jeu, pour moi, c'est l'une des plus grandes performances cette saison collectivement, même si encore une fois, il faut relativiser dans le sens où le Bayern est mieux en seconde période et Villarreal a beaucoup plus d'occasions en seconde qu'en première, mais ça sort un peu de nulle part finalement. Genre Pedraza aura une énorme, alors qu'au départ, c'est Capoue qui perd la balle sur une relance axiale et c'est juste que ça part en transition, ou alors Neuer qui rate une relance, et pareil, Moreno qui tente un lob de 60 mètres au lieu de faire la passe. Mais ça, là, c'est un peu plus circonstanciel à mon sens que vraiment sur la première période où Villarreal se crée les occasions de A à Z.
Alors maintenant, je vous pose une question à laquelle vous ne saurez pas répondre parce qu'on ne lit pas dans le futur, mais Salzbourg avait fait un très bon match aller contre le Bayern et on s'était dit, waouh, c'est intéressant ce qu'ils font. Et sur le deuxième match, ils en avaient pris 7. Donc là, le Villarreal va aller au Bayern. Est-ce que dans un scénario où le Bayern arrive à presser le Villarreal, ça peut tenir ou ça peut gagner? Parce qu'il y a forcément un moment où Villarreal ne va pas tenir le ballon, ne va pas réussir à sortir. On sait à quel point extérieur domicile sur ces matchs-là, quand même, ça peut parfois compter. Et puis le foot, c'est des temps forts et des temps faibles. Et le Bayern a toujours des temps forts à domicile, j'ai l'impression. J'ai très rarement vu le Bayern ne pas se créer d'occasion à domicile. Donc est-ce que, alors, je ne sais pas qui veut y répondre, mais est-ce que ça peut tenir, comme d'autres équipes n'ont pas réussi à tenir d'ailleurs.
Alors il y a un truc par rapport à Salzbourg, c'est que le bloc bas de Villarreal est quand même un peu plus solide, et un peu plus solide, tout simplement. Salzbourg n'était pas fait pour défendre de cette manière-là, Villarreal est capable de tenir de cette manière-là. Après, le Bayern peut élever le niveau sur beaucoup de choses par rapport à l'aller. Le pressing, je pense qu'ils vont vraiment étudier ce qui a été fait sur ce match et qu'ils vont trouver une parade.
Est-ce que le 1-0 suffit? Parce que maintenant, quand même, Emery a joué ses cartouches. Emery a joué ses cartouches, en fait.
Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non, il ne suffit pas. Même à 2-0, quand tu affrontes le Bayern, ça ne suffit pas avant d'aller au match retour. Non, le 1-0 ne suffit pas du tout. Maintenant, Villarreal a, je pense, des arguments pour tenir, en effet, plus longtemps que Salzbourg ne l'a fait. Si ça se trouve, ils prendront leur but sur la première action du Bayern, c'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, ils ont plus de repères lorsqu'il faut souffrir et traverser un temps faible. Après, il y a un truc, c'est que moi j'ai trouvé qu'il y a eu des sorties de balles quand même très intéressantes aussi en deuxième mi-temps, qui peuvent faire 2-0. Il y en a notamment une où ça sort côté gauche avec Estupiñán qui lance en profondeur, je pense que c'est Danjuma qui est lancé en profondeur, et qui centre pour Gérard, qui se fait reprendre par Davis au dernier moment, dans la surface de réparation. Donc ça, c'était une balle de 2-0. Après, il y a celle, comme qu'évoquait Christophe, qui était plus le lot de faits, de matchs, ou de choses comme ça.
Il y a
ça.
Le but refusé aussi, sur une autre sortie de balle. Bon, là, c'est en fin de première.
Oui, mais c'est vrai.
Où là, c'est pour une fois, le Bayern attend plus, genre défend la passe mi-longue, et du coup, là, ça attaque l'espace, et 15 secondes après, renversement, et but chanceux, et annulé pour hors-jeu.
Mais en fait, il y a un truc, c'est que quand tu vois les résultats du Bayern en championnat, alors évidemment, c'est une équipe qui va élever peut-être le niveau, sans doute le niveau, en Ligue des Champions, mais en championnat depuis janvier, sur 7 matchs joués, il y en a 3 où ils se font emmerder. Je parle sous la surveillance de Christophe. Le 3-2 contre Leipzig, où ils gagnent, mais ça se fait bousculer, et ça gagne sur un CSC, je crois, de Guardiola.
Et c'était 50-50 au-delà du score, hein. C'était vraiment, ou 55-45, hein, mais c'était extrêmement serré. Ouais.
Le 1 partout contre Leverkusen, il y a quelques jours maintenant, c'était pas si longtemps que ça.
Pareil, ils sont pas au-dessus.
Et la victoire de Gladbach en tout début d'année, où Gladbach va gagner 2-1 là-bas, mais là, je sais pas du tout comment ça se passait. Je crois que Sommer avait fait des exploits, il me semble. De toute façon, quand Gladbach gagne, généralement, c'est le cas.
Et puis Gladbach, ils ont un peu l'antidote, hein, parce que je crois que c'est mis 600 en coupe, quelque chose comme ça, en début d'année.
Ouais.
C'est l'un des seuls matchs qu'ils gagnent cette année. Mais...
Voilà, et la question que tu peux te poser, c'est est-ce que Villarreal a moins d'atouts, moins d'armes que ces équipes-là pour faire un truc au match retour? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que s'ils ont autant de situations qu'à l'aller, ou en tout cas, non, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'ils auront moins de situations qu'à l'aller, et il faudra qu'ils soient plus adroits, parce que c'est vrai qu'ils, finalement, bon, en XG, je crois qu'ils finissent à 1,5 et le Bayern à 1,2, donc on peut pas dire qu'ils ont énormément croqué.
Sauf que si Pedraza la donne au lieu de frapper n'importe comment dans un angle fermé, voilà. C'est un XG de 0, c'est je pense qu'il donne à.
T'en as plusieurs comme ça en deuxième mi-temps. Donc, t'as Pedraza, t'as Gérard Moreno qui se fait reprendre au dernier moment par Davis, t'as le lob de 60 mètres où il la donne pas à Danjuma, j'imagine, qui doit être à côté.
Et s'il la donne, il est quasiment à hauteur de. Enfin, il peut tirer dans le but vide, mais lui de 30 mètres, ou alors partir en face à face, quoi.
Et moi, je me dis que ça peut être vraiment chiant pour le Bayern maintenant. On verra comment Emery gère le match retour, parce que avec d'autres équipes, ça s'était très mal passé.
Je vous donne les noms de buts marqués par le Bayern à domicile cette année en Ligue des Champions. À domicile contre Kiev, 5, à domicile contre Benfica, 5, à domicile contre le Barça, 3, à domicile contre Salzbourg, 7. Donc, j'ai pas vu le match de Villarreal, je pense que je me le ferai, parce que ça a l'air d'avoir été un très beau travail tactique, mais parfois j'ai l'impression qu'un très beau travail est vite effacé par un triplé de Lewandowski, un doublé de Müller, et en 45 minutes en fait.
C'est passé en 8e un petit peu, hein, c'est pas impossible, hein, mais disons que...
Après individuellement, défensivement, Villarreal est meilleur, je suis d'accord, notamment la défense centrale, tu fais beaucoup plus confiance à Pau Torres, Raúl Albiol pour tenir un bloc bas que...
Ils ont été très bons sur le match, et puis aidés par Capoue, par Héro, parce que... On parlait de Soucek et Rice, ces deux-là aussi, c'est grand. Bon, Parejo aime pas trop non plus le duel aérien, etc. Mais il peut prendre un peu de place dans une surface aussi.
Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette victoire 1-0 du sous-marin jaune?
Non. Non, mais c'était...
Oui,
à surveiller quand même s'il n'y aura pas donc un retour sur les individualités. Mais juste Salzbourg, il y avait quand même un côté sur le fil permanent où l'aller, ils peuvent gagner 3-1 et perdre 3-1. Enfin voilà, tu sentais vraiment que c'était un peu qui tout double. Autant Villarreal, il y a une certaine maîtrise et la Ligue Europa qui gagne la saison dernière, notamment finale, je crois, parce que la demi-finale contre Arsenal, il se passe quasiment rien sur 180 minutes. Mais sur la finale, ils ont quand même toute une partie où ils souffrent et où c'est pas forcément incroyable niveau spectacle. Donc, cette équipe sait défendre bloc bas et même face à la Juve, hein, ils concèdent pas grand chose alors qu'ils passent leur temps à défendre bloc bas. Donc, je pense quand même que le Bayern va pas s'amuser. Il y aura pas d'espace un peu gratuit comme il y avait face à Salzbourg et à voir si y aura un changement. Typiquement, passer à 3 parce que Nagelsmann maîtrise quand même, j'ai l'impression, mieux les défenses à 3 que les défenses à 4. Et là, face à 2 attaquants, ça peut peut-être être intéressant vu qu'en plus ça jouera sans doute sans Purelier au retour.
Et en plus, il y avait un truc aussi chez les attaquants, c'est que les deux attaquants de Villarreal n'ont jamais occupé l'axe. Quand tu prends la défense à 4 du Bayern, il y avait Gérard qui était entre Davis et la ligne de touche, ou entre Davis et Lucas Hernandez, voilà. Danjuma était de l'autre côté, soit entre la ligne de touche et du coup de latéral droit, c'était Pavard, soit entre Pavard et... Et Upamecano, et en fait ça aussi ça posait vraiment des soucis parce qu'ils étaient toujours entre deux et en plus ça avait le don d'étirer la défense centrale du Bayern, c'est-à-dire que parfois quand Lucas coulissait sur le côté pour couvrir Davis, Upamecano était à 25 mètres ou 30 mètres dans l'axe parce que lui il restait dans la zone de Danjuma quoi.
Ouais, du coup les projections axiales. Ça ouvrait des...
Voilà, et du coup il y avait les projections axiales de Lo Celso ou de Capou qui en a fait une notamment en première mi-temps. Donc ça aussi ça a été une problématique et en passant à 3, tu géreras un peu mieux ce genre de situation je pense et tu permettras en plus à tes latéraux d'aller plus naturellement chasser les latéraux de Villarreal qui avaient des espaces sur les diagonales.
Franchement j'imagine qu'on pourra lire tout ça en détail sur Coparena Info.
Absolument, l'analyse, je vais finir de l'écrire juste après qu'on ait enregistré, il me reste quelques lignes à faire.
Du coup, quand vous serez en train d'écouter cet épisode, vous pourrez en même temps lire l'article de Florent sur le travail qu'a fait Unai Emery pour préparer ce match. Je responsabilise mon effectif, quel est le deuxième match qui vous a le plus intéressé sur ces quarts de finale? Je rappelle qu'il y avait City Atletico, Chelsea Real et donc Benfica Liverpool.
Alors, avant de répondre, je promets que ça sera en une phrase, on n'en parlera pas. Mais si les gens s'ennuient, le Leipzig-Atalanta était vraiment sympa. C'est la Ligue Europa, c'était match 19h. Ouais. Un partout, 4 poteaux et un sauvetage sur la ligne de la part... Enfin voilà, 2 poteaux partout, un sauvetage sur la ligne de la défense de l'Atalanta. Donc pour les puristes du jeu, ce match-là était à la hauteur, on va pas le débriefer. Mais c'était très sympa à regarder. Et sinon, pour répondre à ta question, je dirais Chelsea-Real Madrid quand même, parce que les deux matchs de la veille, il y en a un que j'ai pas vu, c'est le seul que j'ai pas vu, qui m'a quand même semblé assez déséquilibré, et l'autre qui était tellement caricatural qu'il n'y a pas énormément à en dire. Du coup, partons rapidement sur le Chelsea-Real.
Chelsea-Real, je vais commencer donc par donner les compositions, et le seul buteur côté madrilène, c'est Karim Benzema contre un but de Kai Havertz. Du côté de Chelsea, Edouard Mendy dans les buts, Rudiger, Silva, Christensen derrière, Jorginho Kanté au milieu, Rhys James à droite, Azpilicueta à gauche, Pulisic et Mount derrière Kai Havertz. Du côté du Real, Courtois dans les buts, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy derrière, un milieu à 3, Casemiro, Kroos, Modric, classique, Valverde côté droit, Benzema en pointe et Vinicius à gauche. On s'attendait à ce que Carlo Ancelotti renforce son équipe avec Valverde, Christophe. On aurait pu l'attendre au milieu de terrain, finalement il a été devant. Et vu les performances d'Asensio lors des matchs précédents, c'était assez logique.
C'était comme face à Paris, il me semble, match retour.
C'est possible.
Je crois qu'il est dans la ligne un peu plus haut sur le terrain.
C'est possible. Je confonds tous les matchs qu'on analyse au fur et à mesure.
Oui, ça devient compliqué à force.
Mais là, il était là en tout cas. Il était titulaire, Christophe. Mais bon, ça reste quand même le match où on a vu que Karim Benzema, c'était très difficile à gérer, d'autant plus quand Chelsea fait des cadeaux. Là, il y en a eu quelques-uns, que ce soit Rudiger, que ce soit Edouard Mendy, mais c'est quand même le match où tu vois le niveau de Benzema, et on le dit souvent, quand t'as le meilleur joueur sur le terrain, et là, je pense que c'était quand même un écart assez conséquent, bah, parfois, en Ligue des Champions, ça suffit quand même à faire des différences, alors que les deux équipes, collectivement, n'étaient pas, je trouve, d'un niveau très différent.
Ouais, je suis assez d'accord, et c'est vrai que... Alors, potentiellement tort. Hein. On a, généralement, quand on est seul contre tout le monde, on a plus de chances d'avoir tort que d'avoir raison. Mais je trouvais que c'était hyper laudateur sur tout ce qu'avait fait Ancelotti et le Real. Alors effectivement, si on estime que Chelsea est une meilleure équipe, rien que d'avoir fait, bon là il y a victoire, mais je veux dire même sur le rapport de force, si tu t'en sors au réalisme, mais que tu fais 50-50 à l'extérieur, on peut estimer qu'Ancelotti a super bien préparé son équipe. Maintenant pour moi le score, c'est quasi uniquement, pas que, hein, mais la variable de deux buts, c'est Benzema et c'est Courtois. C'est-à-dire que pour moi, l'un des deux buts de Benzema, la deuxième tête, je pense qu'un gardien, je pense que Courtois peut aller la chercher, par exemple. Je trouve qu'elle n'est pas facile. Hein. Mais je trouve que Mendy décolle pas. En tout cas, elle me semble plus facile à aller chercher que la frappe d'Azpilicueta qui part en toute vitesse en lucarne.
C'est ça, mais il te faut déjà l'attaquant qui arrive à reprendre ce ballon de Modric, qui est très très beau, mais qui est très beau parce que t'as un mec capable de le reprendre. Parce que sinon, ça, il t'en fait rien en fait. Il part en 6 mètres et personne ne parle de cette action.
D'où la deuxième partie de mon argumentation, qui était que, au-delà du fait du gardien, où t'as au moins une variable. Je pense d'un but parce que le Azpilicueta, encore une fois, elle est quasiment insortable. Ouais, et de l'autre côté, Mendy et Rudiger en offrant à Benzema.
Ouais, et ce Mendy-là, hein, parce que c'est une mauvaise performance qui sort de nulle part. Il y a quelques semaines contre Liverpool, il avait.
Brentford, c'était pas ouf.
Il y a un mois contre Liverpool qui fait un top match et qui sort avant la séance de tir au but. Donc c'est pas non plus. Il est pas dans un creux, je veux dire. Ça a fait quoi, 2 semaines qu'il est pas bon, mais c'est pas la saison de De Gea où il prenait tous les buts, tous les tirs qui étaient sur lui.
Ouais, non, non. Après, j'ai quand même l'impression qu'il est passé genre de 2e à 6e meilleur gardien du monde, mais il n'est pas dans un creux énorme. Il y a quand même un peu moins, je trouve, de top performance. Mais pour aller au bout, mais c'est ce que je dirais, pas révolutionnaire, mais finalement, Benzema, les deux têtes, alors encore une fois, le 3e, il a le mérite d'aller presser maintenant. Le combo Mendy-Rudiger, parce que je comprends absolument pas ce que cherche à faire Rudiger. Autant Mendy se rate, autant Rudiger fait une passe à Benzema alors qu'il a juste à dégager la balle, vu qu'il est premier dessus, mais bref. Les têtes de Benzema sont plus difficiles à mettre que celles qu'a Lukaku. Et Lukaku la cadre pas. Lukaku qui la cadre pas, alors qu'Avertz a une tête à peu près analogue et qu'Avertz la met, alors qu'Avertz au départ n'est pas un numéro 9. Mais tout ça pour dire que les situations initiales, au moins sur la première heure, parce qu'après le Real arrête un peu de jouer en deuxième et du coup c'est logique que Chelsea ait pas mal d'occasions parce que c'est l'effet du score, mais Benzema fait le match. Et t'as un mec qui est ultra doué balle au pied, il n'y a pas que lui, hein, Modric fait des belles choses notamment, mais en plus le fait de décrocher, de participer au jeu, quand t'as les courses de Valverde, de Vinicius autour et que Casemiro protège vraiment bien, ça fait que t'es pas là, t'es pas comme à Lyon où finalement bon, c'est bien d'être technique, mais ça serait encore mieux si t'avais des courses à côté pour t'ouvrir de l'espace. Là il y a vraie complémentarité avec les autres qui font des choses qui complètent le jeu de Benzema qui de la tête est imprenable en ce moment.
Alors, de toute façon, son registre, on le voit sur le premier but où il combine avec Vinicius, il le lance en profondeur extérieure du pied droit, il se présente dans la surface. Alors Vinicius arrive à la remettre pied gauche, mais il met un ballon qui est quand même pas facile à reprendre, et non seulement Benzema arrive à cadrer, mais à la mettre dans une zone très difficile à aller chercher pour Mendy, et ça met très bien le Real, parce qu'on sait très bien que le Real ne serait pas allé chercher Chelsea longtemps dans le camp adverse, et aurait fini par subir, et là tu subis, sauf que tu mènes 2-0, donc tu subis pas de la même façon, tu mènes tout le match. Et ça a aussi aidé Real Madrid. Mais je pense que ce qui est le plus étonnant, Flo, c'est qu'il y a un an de ça, je crois que c'était quasiment il y a un an, parce que c'était en demi-finale, Chelsea ouais. avait massacré le Real Madrid, à la fois physiquement, à la fois tactiquement. Je me rappelle très bien qu'on avait dit que Kroos pouvait plus jouer des matchs de ce niveau-là, notamment dans la zone Kanté. Alors là, c'est pas le même Kanté non plus, mais Kanté s'était régalé dans la zone de Kroos. Chelsea courait plus.
Sort la mi-temps.
Chelsea sortait le ballon plus proprement, Chelsea pressait plus. Et là, même si Chelsea a fini par avoir plus de tirs, avoir le ballon, on n'a pas du tout senti cet écart collectif. Il faut dire aussi que Chelsea est dans un creux collectif, contrairement à Mendy qui est pas forcément dans un creux individuel, mais l'écart n'existe plus comme il y a un an.
Et puis, dans une certaine situation, une certaine incertitude...
Oui, financière, sportive, administrative, ouais.
Non mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que t'entends Tuchel en conférence de presse, tu sens quand même que c'est pesant ce qui se passe autour du club et que t'as beau être dans un groupe et essayer d'être le plus hermétique possible, je pense que ça doit peser chez certains joueurs qui ne savent pas s'ils seront
en fait,
à Chelsea cet été.
Entre ça et la gestion de Lukaku, t'as deux grains de sable alors que t'as rien, t'as pas d'autre raison d'être moins bon que la saison dernière. Ouais. T'as le même effectif. Oui.
Il manque un latéral gauche quand même.
C'est le même système. Oui, Chilwell s'est pété et du coup il manque. Mais,
parce que Azpilicueta, c'est cataclysmique sur ce match. Hormis sa frappe à gauche, bah, c'est pas du tout son poste, hein, c'est pas sa faute. Et t'aurais peut-être pu faire jouer Marcos Alonso qui était sur le banc.
C'est pour ça qu'il voulait absolument récupérer Emerson cet hiver d'ailleurs.
Oui.
Mais bon, c'est vrai que plutôt que de parler de Chelsea, moi je retiens la perte du Real et en effet le fait que Benzema décroche a posé énormément de problèmes à Jorginho et Kanté, parce que Silva savait pas trop s'il devait y aller. Et d'ailleurs, il en a pas l'habitude. Mais c'est pas dans ses habitudes à Thiago Silva de défendre de cette manière-là.
Encore moins vu son niveau physique maintenant, je pense qu'il est plus capable de toute façon d'aller défendre haut et de revenir dans la surface. On le voit d'ailleurs sur l'action du but, le premier but, où il est un peu avancé pour suivre Benzema et derrière sur le déplacement de Benzema, il est à l'ouest et il défend à deux sur Vinicius, il n'y a plus personne sur Benz.
Et il y avait vraiment cette articulation qui était presque l'unique articulation, mais c'est vrai que dès que tu voyais Benzema, fallait être attentif, mais dans ton écran en bas à gauche, tu voyais un appel de Vinicius qui partait qui partait à toute vitesse dans le dos de Christensen, et c'était ça pour le coup, c'est le genre de truc où tu savais que ça avait été bon. Ils le font depuis le début de la saison, mais ils ont particulièrement insisté sur ce point.
Il aurait fallu que Rudiger joue dans sa zone en fait.
Bah, c'est sûr que par rapport à Christensen, Rudiger aurait eu un peu plus d'explosivité, pardon, ou Azpilicueta, hein, en central droit. Hein. Même s'il n'a pas la pointe de vitesse, je pense qu'il a aussi le vice ou des trucs pour se mettre dans la course, ou pour faire des choses comme ça. Là où Christensen, dès les premiers mètres, c'est terminé, quoi. Donc, oui, après, Rudiger, peut-être, en effet. J'en vois pas d'autres. Ou Rhys James, si tu le mets en central. Ouais.
Après, à gauche, il y avait Marcos Alonso qui aurait pu jouer aussi, Christophe. Tu parlais d'Azpilicueta.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Ah, pardon. Bah, tu vois, j'entends que les bonnes parties et je répète les parties qui n'importent. Je continue avec toi, Flo, sur la partie Benzema. Est-ce qu'il y avait quand même d'autres choses dans le jeu du Real? Tu parlais des décrochages de Benzema. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été bien faites? Puisque ça fait quand même 3-1 au score. Le Real a une bonne posture. Est-ce que Modric, Casemiro et Kroos ont mieux tenu physiquement? Est-ce que Valverde a porté? Vinicius, la défense centrale du Real face à Kai Havertz, Pulisic, Mount, qu'est-ce que tu notes dans cette perf?
Rien d'autre parce que j'étais plus focalisé sur Villarreal Bayern.
À partir du
moment où t'as Benzema qui en met deux entre la 21e et la 24e, tu te dis bon, je vais aller voir sur l'autre match parce que ce qui se passe est plus intriguant puisqu'à ce moment-là du match, Villarreal menait. Donc j'ai switché. Et puis en plus, pour rester dans le scénario du match, t'as aussi ce côté, tu reviens à la mi-temps. Et donc à la mi-temps, les deux matchs, tu vois, je te refais ma soirée, reprennent à peu près en même temps. Je fais bon, bah, je vais quand même rejeter un œil parce que Chelsea a réduit le score sur un joli but d'ailleurs. On en a pas parlé, mais joli passe de Jorginho dans le dos de la défense. Un classique pour le coup, mais très bien fait. Et tu vois que Tuchel revient, change de système avec Kovacic qui remplace Christensen et Ziyech qui remplace Kanté. Tu fais bon, allez, on va regarder un petit peu. Et en fait, au bout d'une minute, Benzema met le 3-1 sur une énorme connerie. Donc tu fais bon, du coup, bah, je repars à Villarreal, quoi. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour ma deuxième mi-temps.
Sachant que t'as pas non plus raté masse de choses, parce que je ne sais même pas si le Real fait un tir après le but sur le reste du match.
Non, il n'y a plus de tir. C'est le dernier tir du Real, le tir de Benzema dans le but vide d'Edouard Mendy.
C'est ça aussi qui me fait dire que c'est pas forcément plié. Parce qu'on peut louer l'expérience du Real, etc. Et la gestion, parce que finalement, tu subis pas non plus énormément d'occasions là-dessus. Maintenant, je préfère quand même les équipes qui, même maintenant, ont quand même une ou deux occasions d'essayer d'aggraver la marque, plutôt que dire « Ah, ils n'ont pas fait de tir, bravo bon. !»
Après, ça va contre-attaquer dans le dos de Christensen avec Vinicius Benzema au retour. Et...
Ah oui, non, mais je pense que le Real est quand même en bonne position. Mais ce que j'ai vu là, je n'exclus pas qu'il y ait... Parce que le Real a quand même raté quelques relances en début de match, qui n'étaient pas loin de... Je trouvais globalement que le niveau technique était moins bon que la saison dernière, qu'il y avait pas mal de relances un peu foirées, même que sur le match de Villarreal, par exemple, je trouve. Mais il y a pas mal de matchs où j'étais un petit peu déçu techniquement là sur les deux jours. Et donc, du coup, je pense que Chelsea a encore des chances maintenant en jouant comme ça. Non, et surtout, le Real est très content de contre-attaquer. Mais ce Real-là est quand même assez difficile à lire parce qu'il y a quelques semaines, même, pas beaucoup plus, on parlait de ce qu'il faisait de bien contre Paris et il n'y avait pas grand chose à dire.
On avait dit qu'on les trouvait médiocres et que s'ils tombaient contre un gros bien organisé, ils exploseraient.
Sachant qu'ils
pensaient que ce serait peut-être Chelsea, mais
ils ont joué un gros bien organisé en Liga, ils ont pris 4-0 dans le Classico. Donc faut quand même se méfier, mais bon, cette équipe elle a quand même un savoir-faire de la Ligue des Champions. je suis pas... Bah surtout, ils ont un super gardien, un super attaquant, quoi. Et ça a toujours été le cas quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Encore une fois, sur ce match-là, il y a d'autres choses. Ça n'aurait pas suffi. Mais là-dessus, c'est très intéressant. Après, sur Chelsea, bon, moi, c'est plus des déceptions qu'autre chose, quoi. Pulisic, j'ai jamais été trop fan du joueur, beaucoup moins que toi. Et ouais. Encore là, je l'ai pas trouvé très bon, globalement, à part Havertz. Et limite, c'est bizarre, mais je trouve assez intéressante l'entrée de Loftus-Cheek, qui mettait beaucoup d'impact au milieu, voilà, son style très box-to-box, qui mettait beaucoup d'intensité, là où ça en manquait un petit peu jusque-là.
Mais là où le Real pêche aussi, hein. Et là, c'est là que Kanté avait fait mal la saison dernière, d'ailleurs.
Kanté qui fait pas une hyper bonne saison, d'ailleurs. Mais à voir, mais assez difficile à lire, encore une fois, ce match, parce que ça sourit au Real sur un peu un 50-50 ou pas loin, et ensuite Chelsea fait qu'attaquer, mais n'arrive pas à marquer. Mais
deux choses à noter quand même. Dani Ceballos est vivant.
Oui,
puisqu'on l'a vu étonnant. En fin de match, et j'ai entendu d'un coup Dani Ceballos sur le terrain. Je suis d'accord.
Bah, Ceballos-Bale, le changement, il est fou, quoi.
C'est... Ouais. Pour en plus, pour vraiment 2-3 minutes. C'est vraiment pour sacrifier un peu de temps et les joueurs sur le terrain, peu importe qui entre, mais allez-y, les gars, il faut qu'on gagne du temps. Et petit l'autre quiz. Chose.
Juste vas-y, après.
Vas-y, après vas-y, moi, vas-y. Ouais, tu... voilà. Bah, et l'autre chose dont je voulais parler, c'était les déclats de Tourelle. Parce que Tourelle est un entraîneur quand même qui est très varié dans son ton. Et des fois, il est très très calme, des fois très posé, des fois très réfléchi, des fois très sec. Et là, j'ai rarement vu aussi agressif. Alors, je les ai plus devant les yeux, mais en gros, il a dit que c'était la pire performance de Chelsea à Stamford Bridge depuis qu'il était là, je crois. Et que si...
La pire mi-temps, je crois.
Ouais, la première mi-temps. Ouais. Et que s'ils rejouaient comme ça, ils allaient en prendre 5 ou 6 à Madrid ou quelque chose comme ça.
Ouais, enfin, que ça ne servait à rien de jouer. Ouais, c'est...
Ouais. Quand Marca lui a demandé est-ce qu'il y a encore une chance au retour, il a dit non, on est cuit ou un truc comme ça. Il y a quand même une stratégie là de terre brûlée. Donc, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, si tes joueurs te suivent pas, entre ça, le nouveau propriétaire, la fin de saison.
Après, c'est pas une terre brûlée. Tu brûles pas, je sais pas, une terre incroyable, quoi. Tu brûles pas un château dans le 16e. Hein.
Ouais,
tu
mais
brûles un truc où, dans tous les cas, tu sais pas ce que va devenir le club.
Ouais, oui, certes. Mais disons, il trouvera quelque chose au pire. Mais...
Oui, c'est ça. Mais tu vois, ça se trouve, il est déjà dans l'idée. De toute façon, dans tous les cas, il y a des chances qu'il parte. Mais ça me rappelle un petit peu. Alors, c'est pas le même truc. Mais avant la remontada, Luis Enrique qui dit qu'il se casse en fin de saison, quoi.
C'est-à-dire, vous savez que je m'en vais. On va voir si vous êtes prêt à faire l'effort quand même. Soit pour moi, soit parce que vous savez que ce sera plus moi.
Oui, genre, en fait, vous avez deux mois de supporter.
Oui, vous jouez plus pour moi, en fait.
C'est ça, ouais.
Vous n'avez plus à jouer pour moi.
Et juste comme ça, mon petit quiz. Combien de minutes en Liga cette saison, Dani Ceballos?
48.
Allez, je vais quand même dire 112.
Exceptionnel, Florent, 46.
C'est bon, ça.
Sachant
qu'il a fait une mi-temps, en fait.
Il était à plus de 1600 et quelques sur ses deux dernières saisons à Arsenal. Donc, disparition totale de l'ami Dani.
Entre ça et Pulisic, c'est vraiment difficile comme séquence pour les joueurs que j'aime bien. Mais Pulisic, pour moi, il entre de plus en plus dans la zone Jonathan Bamba, en fait. À un moment, il faut se remettre en question, Christian. Parce que là, c'est... c'est le joueur, il avait trop de qualités et maintenant on se demande c'est quoi ses qualités. Donc je suis un peu perdu par rapport à lui.
Et déjà 23 ans, alors c'est jeune, mais pour un mec qui a émergé à 17.
Ouais, c'est ça, il a commencé. Et sa meilleure saison, ça reste la première à Chelsea où il jouait la moitié des matchs, il fait 9-4, 9 buts, 4 passes décisives. Alors la vie, c'est pas les stats, mais depuis c'est 4-2, 4-2, 2-2, 2-1. Voilà, il va falloir un moment passer un cap. Cri-cri. Même s'il fait des très beaux shootings photos où il y a bien un cow-boy et tout. C'est une icône aux États-Unis, mais j'aimerais que ce soit une icône sur le terrain. Est-ce que vous voulez parler de Manchester City Atlético Madrid ou de Benfica Liverpool?
Moi, je peux dire.
Je préfère t'entendre parler de Pulisic qui fait des photos.
Non, mais.
Non, vas-y, ouais.
Vas-y, je prends le lead sur City Atlético. De toute façon, après, je redémissionnerai pour Benfica Liverpool parce que j'ai uniquement vu les buts. On pourrait parler de l'ami Konaté. Manchester City, Atlético Madrid. Ce qui est drôle, mais après je m'en doutais, mais j'avais fait un papier sur Eurosport pour en gros faire un peu les évolutions des deux entraîneurs, Guardiola, Simeone, depuis leur dernière confrontation, qui était quand même un match exceptionnel et énorme opposition de style. Et j'avais dit qu'en gros, Simeone avait essayé quand même de se réinventer un petit peu par l'attaque, parce que en Liga, à l'époque, tout le monde jouait, il pouvait contrer. Là, maintenant, il y a quand même de moins en moins d'équipes qui jouent. Donc, du coup, il doit être un petit peu plus offensif. Donc, c'est système à 3, etc. Voilà, des nouvelles choses, l'occupation des demi-espaces qui ne se faisaient pas avant. qui va aussi avec le fait de jouer à 3. Hein. Du coup, t'as un piston dans le couloir et puis un offensif qui occupe le demi-espace en plus des attaquants. Mais tout en disant en conclusion, bon, par contre, le problème, c'est que là, il va jouer contre une équipe qui aime bien avoir la balle et lui, ça lui va de pas l'avoir. Donc au final, tout ce que je viens d'écrire est peut-être vain parce qu'il va sans doute retourner à sa bonne vieille tambouille.
Ah, oui.
Et non seulement il est revenu à la bonne vieille tambouille, mais il a fait même pire parce que il y a quand même des séquences où t'es pas en 4-4 de bas ou en 5-4-1, 4-5-1. Il y a vraiment des très longues séquences où il est en 5-5-0. Et je sais pas si foutage de gueule c'est le bon terme, parce que, encore une fois, on est sur un quart de finale Ligue des Champions, c'est extrêmement facile de juger depuis son canapé. Maintenant, quand tu vois en plus l'effectif, il y a quand même, tu vois, au milieu de terrain, il y a Llorente, et devant, t'as Félix Griezmann. Plus bon, les pistons, Versalco est pas hyper offensif, mais Lodi est un piston qui peut jouer ailier dépanné.
T'as recruté Rodrigo De Paul, t'as recruté Cunha, t'as Correa qui peut faire des choses.
Il y a Luis Suarez.
T'as Daniel Vaz qui peut être un latéral plus offensif.
Bref, t'as tout ça, et pour 5-5-0, et bon, c'est quand t'es l'entraîneur le mieux payé du monde et que t'as un tel effectif. Sinon, ça serait plus compréhensible si t'avais des moins bons joueurs, finalement, si c'était l'effectif d'il y a quelques années. Donc bon, City n'a pas foutu grand-chose. Hein. City est quasiment aucune action dangereuse jusqu'à l'entrée de Foden qui fait la différence et qui offre un but à De Bruyne.
Ils ont un XG pour 15 tirs.
Ouais, non, mais il n'y a pas énormément. Tu peux potentiellement tourner à 2-0. Pour moi, c'est vraiment une démonstration de pressing à la perte, mais tu presses aussi hyper bien à la perte parce que tu prends peu de risques avec la balle. Du coup, c'est très facile de la récupérer quand tu n'essayes pas non plus d'ouvrir et de jouer à l'opposé sur le grand terrain, etc.
Beaucoup de fautes dans le bon timing aussi, City. Hein. Il y a quelques fois où le joueur de l'Atlético arrivait à se retourner et petit tirage de maillot, bousculade, beaucoup de fautes tactiques bien senties.
C'est du classique. Mais on ne va pas non plus faire une demi-heure, City n'a pas forcément réussi à trouver les espaces, mais voulait pas offrir de contre-attaque. On a offert une sur une bourde, et au final, c'est plus ou moins un tir, c'est pas comptabilisé comme, du coup, l'Atlético est annoncé à 0 tir. Voilà, 0 tir pour l'Atlético. Je suis quand même assez impatient de voir le retour, parce que si c'est la même physionomie, Chelsea, n'importe quoi, City peut faire 90 minutes de possession défensive. Ou au pire, se dire, mettez-nous-en. Au pire, vous nous en mettrez un sur une connerie de notre part. On aura quand même des chances d'en mettre un, nous aussi. Enfin, honnêtement, que l'Atlético gagne par un but d'écart et aille jusqu'au tir au but, ça me paraît improbable. Que l'Atlético gagne avec 2 buts d'écart, ça me paraît totalement impossible. Sauf, encore une fois, changement de philosophie et du coup, voir un peu d'ancien Simeone avec le combat, etc. Mais avec plus de touches offensives, un petit peu plus d'ambition. J'ai quand même envie de voir ça parce que là, tu refais le même match. Enfin, encore une fois, avec un tir à 0, tu peux pas gagner ce match, c'est impossible.
On entend souvent que la richesse du foot, c'est sa diversité, le fait qu'il y ait plein de styles. Alors oui, mais pas forcément quand ils s'opposent. Hein. Parce que là, quand ça s'oppose comme ça... Les deux ont tellement peur l'un de l'autre qu'en fait, aucun des deux... Enfin, les deux sont très radicaux dans leurs idées, quoi. La position de City est très très patiente, très défensive. Ça porte longtemps le ballon, ça prend aucun risque dans les passes, quasiment. Et l'Atlético veut pas prendre de risque non plus à s'engager trop vers l'avant, donc en fait aucun des deux n'attaque vraiment.
Après, tu peux avoir des oppositions de style, mais genre si t'es une équipe défensive mais qui ose relancer sous pression, ou alors si les deux ont un tout petit peu moins d'extrémisme dans leurs idées, quoi.
Bah, je préfère les Guardiola Conte, même quand Conte veut pas du ballon mais qui veut ressortir et casser le pressing et attaquer dans les grands espaces, que le Guardiola Simeone comme ça, en fait.
Ouais, bah moi, enfin honnêtement, la moitié du temps j'étais à moitié sur mon portable parce qu'au final. La séquence de possession, tu l'as vu 40 fois et je regarde le match quand même, mais autant Villarreal, t'es quand même obligé d'étudier les circuits, les trucs, comment ça ressort, ah putain, les mecs sont sur le côté, le positionnement, autant là, quand t'as compris ce qui se passait sur le terrain, c'est toujours la même chose, quoi, ok. Enfin, voilà, Julien Momon nous a fait quelques visualisations, quelques trucs sur Twitter, oui, Guardiola a changé, enfin, lui ou ses joueurs, peu importe, en tout cas, il y avait une prise d'initiative de changer un petit peu la forme sur les attaques, où t'avais un 3-4-3 losange sur certaines séquences ou autres. Dans l'absolu, c'est à noter, mais ça apportait rien, et au final, moi j'ai pas...
Quand t'attaques un 5-5, tu peux faire ce que tu veux, c'est difficile de trouver une supériorité numérique.
C'est ça,
tu peux avoir une supériorité positionnelle, ça a été le cas, là, vite fait avec Foden, puis après t'as la qualité de Foden aussi pour se donner du temps dans les petits espaces. C'est surtout ça, l'histoire des 20 dernières minutes et l'histoire du match, finalement. C'est ça. C'est Foden qui a assez de vivacité pour exister dans ces espaces-là, contrairement à d'autres joueurs qui ont la qualité technique, mais qui n'ont pas forcément ce coup de rein et cette finesse sur 2-3 touches de balle.
Ouais, puis t'enlèves Gundogan aussi, qui était là pour arriver lancé, pour marquer des buts en deuxième rideau, et qui n'a pas pu le faire, et du coup t'as rajouté un peu plus de technique. Mais bon, c'est Foden qui fait le match. Hein.
On termine par un match qui nous a beaucoup plus diverti, Flo, mais je vais te réveiller, te sortir d'entre les morts. C'est le match entre Benfica et Liverpool. Déjà, le Benfica-Ajax avait été fun lors du tour précédent. Le match à Benfica, en tout cas, c'était moins fun du côté d'Amsterdam. Et là, ça a été encore très sympa, avec un Benfica porté par Darwin Núñez et par Rafa Silva, qui ont fait beaucoup de mal à Liverpool. Liverpool qui s'en est sorti de ses temps faibles grâce à une défense centrale encore une fois très costaud. C'était peut-être le match le plus amusant de tous ceux qu'on a vus. Pas forcément le plus intéressant tactiquement, mais le plus divertissant des quarts de finale Ligue des Champions.
Le plus divertissant, je sais pas, parce que Villarreal-Bayern était assez divertissant, même s'il n'y a pas eu autant de buts. Mais c'est vrai que le début de match, en fait, c'était plaisant, parce qu'en fait, Benfica, quand ils ressortent, on l'avait vu face à l'Ajax, mais ils calculent pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont cassé le pressing, ça va se projeter en nombre, et ils ont des mecs capables de à la fois de sortir le ballon, avec Weigl, avec Tarapt, avec des bons latéraux aussi, notamment Grimaldo à gauche. Et une fois qu'ils ont trouvé les attaquants, ben les attaquants, ça va assez peu calculer, ça va être très vertical, très direct.
Oui.
Rafa Silva étant un des meilleurs exemples. Et en fait, face à Liverpool, ils ont réussi plusieurs fois à s'extirper du pressing des Reds, à sortir des deux premières lignes. Le problème arrivant lorsqu'il fallait faire face à la dernière, c'est-à-dire à Van Dijk et Konaté, où là, par contre, par rapport à l'Ajax, où ils se retrouvaient face à Timber ou Blind, ou j'ai perdu Martinez. Le troisième nom, Martinez en effet, où en effet là, sur le plan physique, Núñez avait un avantage. Bon là, c'était plus compliqué, on va dire, en mettant les formes. Je pense que plus compliqué, même, c'est un euphémisme par rapport à la situation, parce que en effet, les 15-20 premières minutes, tu vois Benfica, tu fais « putain, il y a des sorties de balles intéressantes », d'ailleurs c'est ce que je vous disais dans la conversation, c'est pas mal ce qu'ils font, etc. Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'ils arrivaient dans la zone ou de Konaté ou de Van Dijk, ça prenait un stop et c'était terminé. Quoi.
C'était pareil pour l'Inter contre Liverpool. Hein. L'Inter sortait mieux le ballon, avait plus de variété, mais une fois qu'ils arrivaient dans cette zone-là, je me rappelle même de Lautaro qui abandonne une action de contre-attaque parce qu'il voit Van Dijk et il fait « bon, bah, débrouille-toi ».
En regardant le truc, je me suis même demandé si, face à Konaté, il vaut mieux pas le laisser prendre le ballon, c'est-à-dire se retrouver de haut jeu et le presser en fait quand il est de haut jeu.
Ah, je pense qu'il faut lui tirer dessus, hein. Il faut lui tirer dans les pattes plutôt que avoir le ballon dans les pieds. Non, mais vraiment, parce que comment il a bougé Darwin Núñez à un moment là.
Ah non, c'était assez violent. Mais je pense vraiment que si t'es un attaquant, tu vois, t'es lancé en profondeur et tu t'as Konaté qui arrive sur ta route, tu fais bon, ok, vas-y, passe-moi devant. Et par contre, dès son premier contrôle et sa première touche, tu lui mets une grosse pression. Et là, je me dis que peut-être tu peux le mettre en difficulté. Mais c'est vrai qu'au duel, c'était difficile. Et Van Dijk s'est trouvé un partenaire. Je pense que c'est son plus solide, même si sur le but de Benfica, il se trouve vraiment. Et je pense qu'un Matip, par exemple, n'aurait pas fait le genre d'erreur qu'il peut faire. Avec l'interception ratée sur la réduction du score.
Matip est pour l'instant un meilleur relanceur et un peu plus fiable dans les airs, je pense, sur la gestion des duels aériens. Par contre, au sol...
Par contre, joli but de Konaté, d'ailleurs.
Ouais, il en met un beau. Sur corner. Mais au sol, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais impliquer Christophe dans la discussion, parce qu'il connaît quand même les joueurs, même s'il n'a pas vu ce match pour l'instant. Mais je me demande si Liverpool n'a pas un peu trouvé le cheat code maintenant des défenses centrales modernes, juste sur la morphologie et la vitesse. Donc Van Dijk, c'est 1m93, 92 kg. Konaté, c'est 1m94, 95 kg, les deux vont à 3000. Est-ce que parfois ça ne suffit pas juste d'avoir deux joueurs comme ça pour compenser la supériorité de collectif de certaines équipes sur certaines phases de jeu? Parce que là, ils ont défendu des 2 contre 3, des 2 contre 2, tranquille. Je me demande si c'est pas juste ça parfois, d'être supérieur, d'être dominant, d'avoir deux centraux qui ont en fait toutes les qualités athlétiques.
Après, il y a quand même un truc qu'il faut noter, alors pas vu ce match-là, mais. Je vois les matchs de Liverpool en championnat. Il y a, mine de rien, un besoin de synchronisation pour mettre les adversaires hors jeu, même si...
Ça joue très haut, ouais.
Parce que je pense que les deux joueurs qui provoquent les mises hors jeu, Liverpool éclate les stades de tout le monde. Le truc étant que quand tu vas vite, finalement, bon, après, il ne faut pas faire une course de barbare pour mettre quelqu'un hors jeu. Mais en gros, si c'est juste faire le pas devant, tu peux quand même faire la course dans l'autre sens. En gros, tu fais de la mise hors jeu, mais tu peux quand même revenir si jamais tu l'as raté. parce que tu arriveras à rattraper ton vis-à-vis. Mais c'est vrai que, alors tu parles de cheat code, après c'est pas comme si, si on parle vraiment les vrais cheat codes, genre sur les jeux vidéo, où en gros faut appuyer sur une touche à un certain moment, et en gros si t'y as pas pensé, voilà. Là c'est un cheat code qui est réservé à quelques clubs, parce que des défenseurs centraux qui font 1m90, 85 kilos, et qui font le 60 mètres en 7 secondes 20, il y en a 10 en Europe, et... il y a trois clubs qui peuvent se les offrir, quoi. Mais c'est vrai, enfin, j'exagère un peu, parce que Konaté, voilà, il est trop blessé pour que d'autres clubs ne puissent pas rentrer dans la danse potentiellement. Je pense qu'il aurait pu avoir des courtisans un petit peu plus tôt.
Je me demande si c'est pas pour ça que le club d'ailleurs, il va doucement avec lui et le fait jouer quasiment un peu en mode Casillas au Real les dernières saisons, où il joue en fait principalement en Ligue des Champions et pas forcément le championnat.
Ouais, c'est possible. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que. Mais c'est toujours pareil, quand t'es une équipe qui domine actuellement, la vitesse, ça reste un critère hyper important. Et c'est aussi pour ça que, même s'il est meilleur que la caricature que j'en fais parfois, Kyle Walker est hyper important à City, parce que si t'avais un mec beaucoup moins rapide, tu mettrais sans doute encore moins de gens sur les phases offensives. Et peut-être que d'ailleurs, que si t'avais eu Walker sur le match de City et Cancelo côté gauche, ça t'aurait peut-être permis d'attaquer encore un peu plus, parce que du coup, ta couverture sur 50 mètres, c'est pas la même que quand tu joues avec Kabak en défense centrale.
Flo, un dernier mot, le dernier mot de cet épisode, ce sera sur Trent Alexander-Arnold, parce qu'on a parlé des exploits techniques de Dimitri Payet, et puis Alexander-Arnold, en fait, en une seconde, c'est des transitions qui partent de son camp, parce qu'il voit tellement vite le jeu, et il est capable de trouver des passes improbables, genre, il y en a deux pour moi sur ce match qui sont choquantes, ouais. T'as évidemment
celle, une
pour...
Un but,
ouais, t'as celle pour Luis Diaz, et t'as celle pour Salah, que Salah croque derrière, ouais. Où il fait une feinte, il se retourne, et genre, il est en bout de course, limite pointe de pied, et en fait, il envoie un ballon parfait dans la profondeur, et je ne comprends même pas comment techniquement c'est possible. Je ne sais pas quel joueur peut faire ça sinon, en fait, en Europe, en partant de si loin. Et c'est pour ça, ça c'est un autre cheat code, en fait.
Oui, c'est un autre, en effet. C'est vrai que, est-ce que tu... Moi, je n'ai pas de joueur comme ça. En tout cas, je n'ai pas de latéraux droit.
Cancelo, peut-être par séquence, peut, mais de moins loin, parce que si tu es dans le camp adverse, mais il y a cette variété technique.
Oui. Oui, bah c'est Cancelo, c'est le premier qui me venait. Mais bon, c'est le joueur de titulaire de l'équipe qui est le principal rival de Liverpool. Oui. Donc il y en a pas non plus beaucoup du coup. Les deux sont aux bons endroits, on va dire. Mais non, oui, il fait en effet deux trois ouvertures sur ce match qui sortent de nulle part et qui sont dignes de milieu offensif, de meneur de jeu, etc. Quoi. Donc,
un peu de Beckham quand on faisait les sagas sur le Manchester, sur Monaco dans les années 90, c'est qu'on voyait Beckham. On voyait un peu de ça, je trouve.
Ouais. Et ouais, pour compléter, Liverpool qui finit quand même à 3,86 XG. Je crois que c'est la meilleure perf, du coup, sur les Caralais.
Leur saison sur le plan largement. Offensif, c'est n'importe quoi.
Et du coup, bon, bah, le travail est quasiment fait pour le retour. Mais bon, je pense que le retour peut aussi être agréable à regarder. Malgré tout,
ouais.
Même si l'issue fait.
Benfica.
Je vais pas dire aucun doute, parce qu'il faut jamais dire aucun doute. Mais Benfica a rien à calculer. Elle en fait peu en tout cas.
Ils ont rien à calculer, Benfica, donc ils vont aller
chercher. Ils calculeront pas de toute façon.
Ouais. Par contre, cet effectif avec Roger Schmidt, je pense que ça peut être fun.
Ouais, le problème, c'est je pense qu'il va se faire un petit peu démanteler cet effectif cet été.
J'ai des doutes sur Tarap Weigel au milieu, je pense que ça va être compliqué de son style de jeu avec ces joueurs-là. Mais s'ils arrivent à garder Núñez.
Bah, je pense que Núñez, il part cet été, justement.
Et Rafa, c'est les deux qui peuvent être très fun avec Schmidt. Mais c'est vrai que s'ils perdent Núñez, Rafa et Grimaldo, bon, bah, toutes les parties fun de l'équipe disparaissent.
Je pense que Rafa va pas bouger. Il a 29, non ? 28, 29.
Ouais. Déjà... Mais c'est un super joueur. Hein, c'est...
Oui, moi j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est... je me dis que ça aurait pu être une évolution de carrière de Bernardo Silva, en fait.
Après, il va beaucoup plus vite.
Mais ouais, non, ça va très 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 vite, ouais. Et il y a un côté il y a un côté Bowen, en fait,
ouais.
qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être un peu plus technique, ouais. Meilleur dans les changements de direction, mais ce côté, ouais, je perds à chaque fois ce mot, ce côté, le gars va y aller tout le temps pour aller provoquer.
Ouais. Et, il s'est fait découper par Thiago à un moment, d'ailleurs.
Oui, bon, ça fait partie du jeu, justement, quand de ce genre de joueur.
Non, mais c'était... Bon, on verra bien comment tourne Benfica, mais je pense qu'avec Schmidt, ça peut être sympa.
Vous pensez que Schmidt, il sera triste depuis avoir Radonjić ou pas?
Tu vois, il va en faire un... Ah, mais il est prêté, Radonjić, c'est ça?
Mais je crois qu'il est prêté jusqu'à la fin de la saison, mais je sais pas trop, ouais. Parce que Il est tout le temps prêté, en fait. Il avait été prêté après, au Hertha, mais le Hertha en voulait plus.
De toute façon, on l'avait déjà dit, mais l'effectif de Benfica n'a aucun sens. Hein. Il faut qu'on le rappelle quand même. Là, il y a Suelo Umeite qui est encore rentré en jeu. Enfin, c'est...
Il y a Lazzaro qui est là, qui est un mec prometteur, mais en fait, bah, peut-être qu'il ne l'est pas, finalement.
T'as toujours Seferovic qui est sur le banc. Enfin, c'est... Cet effectif n'a pas grand sens, mais il était là, il est toujours là en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, ça, on prend, hein. Tant que c'est fun, on prend. Moi, je suis surtout curieux de voir où va aller Grimaldo.
Après,
Darwin Núñez, pour moi, c'est le remplaçant de Haaland, par exemple, à Dortmund, tu vois. Mais après, il faut qu'il puisse le payer.
À noter, là, j'y pense, mais que Benfica sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc,
ils sont troisième au classement, c'est
ça? Ils sont troisième et très loin du Sporting et de Porto, qui a battu le record d'invincibilité. Donc, je crois que c'est 55 matchs, il me semble. Donc, ça serait en Ligue Europa, ce qui est quand même une compétition qu'on suit et qu'on suivra et qui est sympa. Mais on n'aura plus de Benfica à Liverpool, a priori, l'an prochain.
Très bien. Merci, messieurs, pour ce 20e épisode de la saison 9 de Vue du Banc. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des matchs retour, de tous ceux dont on vient de parler, notamment des Français, puisque rien n'est fait, et rien n'est fait d'ailleurs dans la plupart des matchs qu'on a vus dans les trois Coupes d'Europe. Merci, Florent. Merci, Christophe. Et à bientôt.
Ciao.
Cordialement.